Bienvenue à toutes et à tous dans Le Meilleur des Mondes, l'émission de France Culture consacrée au bouleversement suscité par le numérique et les nouvelles technologies. Loin des scandales, de l'écume médiatique, des enjeux économiques ou de l'hystérie collective, que fait vraiment le numérique à nos vies? C'est la grande question à laquelle la docteure en sciences politiques Charlène Biondi a tenté de répondre dans son premier essai intitulé « Décoder une contre-histoire du numérique ». L'autrice dépasse une approche moralisatrice ou manichéenne de la transformation numérique pour nous livrer une vision sensible, qualifiée de poétique. On aura l'occasion de la développer. Une approche originale qui cherche à éclairer ce filtre quotidien et invisible qui est celui de la technologie, tout en cherchant une manière de dépasser la crise de sens et de confiance pour refaire société. La technologie est politique, intime, c'est un phénomène total et permanent, et aussi l'objet de notre discussion du soir. Bonsoir et bienvenue, Charlène Biondi.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences politiques, diplômé de l'Université de Columbia et de Sciences Po. Vous travaillez aujourd'hui dans la FinTech, ce qui ne vous empêche pas de décoder une contre-histoire du numérique. C'est bien le titre de votre livre paru très récemment aux éditions Bouquin. Un prolongement audacieux de votre thèse où vous défendez une vision techno-poétique inédite. Au programme également les nouvelles du meilleur des mondes et la chronique de Juliette Deveau qui reviendra sur l'héritage culturel des hackers chez les activistes que vous connaissez bien. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter en podcast sur l'application Radio France et à nous suivre sur les réseaux sociaux où nous gardons le fil, le lien et la connexion des ondes radiophoniques au cyberespace, le meilleur des mondes. C'est parti.
Tim Berners-Lee est un expert mondial, non pas dans un, mais dans deux domaines. Sont les deux, HTML, HTTP, ils marchent parfaitement ensemble. Et c'est parce qu'ils viennent tous les deux du même cerveau.
Pour moi, ce n'était pas une révolution politique à l'époque, peut-être sociale. Il s'agissait de connecter les gens entre eux, de créer une technologie qui permettrait à des gens éloignés de travailler ensemble, pour leur permettre de collaborer.
Les pirates informatiques ont un principe. Toute information doit être libre.
Ce visage juvénile défie l'Amérique. Edward Snowden.
Ce qu'ils ont fait pour maintenir le même niveau d'espionnage, c'était de faire une sorte de pacte diabolique avec les sociétés de télécommunications. Oui, nous, le gouvernement, nous n'allons plus conserver ces données, mais nous voudrions que vous, les sociétés de téléphonie, vous conserviez tous les enregistrements de tous vos abonnés. Et lorsqu'on voudra regarder la vie de quelqu'un, eh bien, vous nous fournirez ces enregistrements.
Sur 30 000 employés de la NSA, pourquoi lui a-t-il décidé de parler?
Et puis un jour, c'est arrivé. Ça marchait. La double dépense pulvérisée par la cryptographie. Transparence absolue. Anonymat préservé. Bitcoin était prêt.
J'avais tout fait pour que le Bitcoin fonctionne en toute autonomie. Sans moi, Satoshi, son créateur. Sans intermédiaire. Chercher à découvrir ma véritable identité n'y changerait rien.
The main reason I'm here is to clear my name that I have nothing to do with Bitcoin.
Des débuts de l'internet à la crypto-monnaie en passant par la déflagration Snowden, voici un petit condensé de l'histoire de la transformation numérique, une perspective historique présente également dans votre ouvrage. Vous revenez longuement d'ailleurs sur la pensée des hackers. Alors pour mieux comprendre votre position, Charlène Biondi, vous vous décrivez par la négative comme étant ni sceptique, ni utopiste, ni pragmatique, mais peut-être techno-poétique. Expliquez-nous.
En fait, je pars d'un constat qui est que pour comprendre les conséquences politiques de la technologie, il faut arracher la technologie à toutes les questions de pouvoir. C'est quelque chose qu'on fait jamais ou qu'on fait très rarement. Et en fait, à chaque fois qu'on pose la technologie comme étant l'instrument d'un pouvoir, que ce soit le pouvoir de l'État et de la surveillance de masse, que ce soit le pouvoir de son industrie, etc., on n'arrive pas à dire... On s'aveugle à ce qu'est la technologie elle-même, parce que en faisant ça, on réfléchit à la puissance de l'industrie ou du capitalisme qui l'instrumentalise, aux dérives potentielles d'un État libéral qui pourrait devenir totalitaire s'il était armé de... Et derrière toutes ces réflexions, en fait, on dit rien sur la technologie elle-même. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre ce que produit le numérique en tant que tel, pas en tant qu'il est l'outil d'un fou furieux comme Elon Musk. Simplement en tant que nouvelle façon de faire, d'organiser, de représenter, de capter le réel. Et donc c'est pour ça que j'ai utilisé ce terme de poétique, parce qu'il me semblait radicalement différent de la notion de pouvoir à laquelle j'aimerais faire échapper la technologie. Et aussi parce que la poésie, pour moi, c'est précisément ce qui permet de renouer avec une forme de créativité. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire dans l'analyse des enjeux du numérique, c'est réussir à aborder le numérique avec une certaine forme de créativité. C'est-à-dire, une fois qu'on a dit que tout change et que le numérique transforme tout, comment on peut imaginer le monde d'après, entre guillemets, le monde qui est transformé? Et pour ça, il faut sans doute un petit peu de poésie.
Oui, sachant que pour vous, il n'y a peut-être même pas forcément de monde d'après, puisqu'en fait, la technologie est déjà là pleinement comme un filtre, vous l'évoquez d'ailleurs, un filtre invisible qui est déjà dans le monde entier et sur notre lecture du monde, en tout cas, peut-être pas dans le monde entier, mais dans notre lecture du monde.
Tout à fait. En fait, j'aurais pas dû dire monde d'après, j'aurais dû dire les institutions d'après. Parce que un des points de départ de mon analyse, c'est qu'il y a un lien entre la crise de sens qui est diagnostiquée partout, qui s'apparente souvent à une crise de la démocratie et des institutions qui l'organisent, et la numérisation de la société. Et ce lien, il est pas très clair, il n'est pas évident, il n'est pas unidirectionnel, c'est-à-dire que ce n'est pas le numérique qui est la cause de tout. On ne peut pas expliquer le populisme simplement par le réseau social. En revanche, il y a un lien. Et l'argument que je développe, on pourra y revenir peut-être après plus en détail, mais c'est que le numérique est en train de rendre, à force de s'insérer entre nous et le monde, il est en train de rendre des vieux concepts obsolètes. C'est-à-dire de faire que les institutions et les grandes idées qui nous gouvernent appartiennent au passé, parce que le numérique nous a emmenés ailleurs. Et donc, plutôt que de chercher à le réguler, il faut se demander comment il a transformé ses concepts et ses institutions. Avoir une réflexion de fond, aux racines, très loin des débats superficiels. Et c'est là qu'il faut être créatif, parce que je pense qu'il y a quelque chose à réinventer. Et on l'a toujours fait dans l'histoire de s'interroger sur quel est le nouveau sens qu'on donne au mot liberté. Enfin, c'était l'objet de la Révolution française. Et je pense qu'on en est à ce point-là de clash, entre guillemets, avec la civilisation numérique.
Ouais, de clash et effectivement de rupture des institutions qui doivent totalement se renouveler, parce que comme vous le dites, elles sont déconnectées, même sans mauvais jeu de mots, par rapport à ce qui est en train de se dérouler face à nous. Mais c'est tout de même complexe, justement, à appréhender de cette manière, la manière poétique que vous évoquez, parce que la manière poétique, on la voit pas aussi facilement qu'un scandale médiatique ou qu'une version, une vision un peu instrumentale de la technologie. Vous évoquez un filtre invisible, même une liquidité du numérique. Comment on arrive justement à appréhender une liquidité qui, par définition, est un peu évanescente?
Bah, c'est toute la difficulté, mais c'est déjà un pas énorme que de s'interroger sur la nature de la technologie elle-même. Alors le terme de liquidité, je l'emprunte à quelqu'un, c'est Zygmunt Bauman évidemment, qui parlait de société liquide pour parler des sociétés néolibérales, mais je trouve que le terme se prête très bien à cette technologie qui a déjà tellement changé, c'est-à-dire que le sens qu'on a donné au mot numérique entre les années 80 et aujourd'hui a complètement changé en fonction de ses applications. Et d'ailleurs, ça me fait toujours sourire quand j'y repense, mais moi, quand j'ai passé mon bac, on parlait des NTIC,
pour la mondialisation. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Ouais. Exactement. Et aujourd'hui, nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est complètement dérisoire. C'est obsolète, ça fait sourire, on n'en est plus là. Pourtant, j'ai pas passé mon bac il y a si longtemps que ça.
Non, car vous êtes né en 1988, si je dois révéler une donnée personnelle.
Voilà. Et donc, je sais plus ce que je racontais. Mais voilà, si, le numérique liquide, insaisissable, parce que à chaque nouvelle application, à chaque nouveau progrès technologique, son sens est transformé. La façon dont on l'aborde et dont on comprend ses effets sur le monde sont transformés. On parlait de la société de l'information. Et puis maintenant, on se retrouve enfin, à l'âge du big data. Et le big data, c'est déjà très différent de la société de l'information. Ça a transformé du texte de manière numérique. Ça permettait de communiquer plus facilement. Le big data, ça transforme. C'est un mouvement qui vise la quantification de données qui n'avaient jamais été quantifiées auparavant. Les battements cardiaques, les flux humains, la circulation, l'ADN, etc. Et à numériser tout ça, enfin, c'est un autre paradigme, une autre application du numérique. Et cette rapidité de la transformation, cette mutation du sens du numérique fait que effectivement il échappe presque toujours, c'est qu'on est obligé de courir derrière ces applications pour comprendre ce qu'il fait.
Oui, mais ça, c'est aussi un petit peu le problème du temps de l'analyse par rapport au temps technologique qui est forcément toujours plus rapide. C'est-à-dire qu'on a parfois du mal à comprendre comment la technologie, quels sont ses effets réels, sa compréhension, qu'on est déjà passé à la suivante. On a du mal justement à se capter. C'est pour ça que la liquidité est intéressante, parce qu'on a du mal à l'arrêter, en fait. C'est un robinet constant aussi.
Exactement, c'est un robinet constant. Alors, la solution que je propose à ce robinet constant, c'est d'essayer d'aborder les présupposés sur lesquels repose la technologie. C'est-à-dire, une fois qu'on a dit que le numérique, c'était la représentation du monde réel en données, il faut se poser la question de comment le numérique, quels sont les présupposés, quelles sont les hypothèses sur lesquelles se fonde le numérique, si je peux lui donner un pronom, pour représenter le monde. Et c'est un peu une des aventures que je propose dans mon essai, c'est de revenir à l'origine du numérique, et notamment à la naissance de la cybernétique, et de tracer, de retrouver, de recréer les liens, les présupposés qui infusent le numérique depuis la cybernétique jusqu'aux algorithmes contemporains.
Et c'est ça qui est intéressant effectivement dans votre livre, c'est qu'il y a cette perception historique dont on parlait, et parfois même des inversions de valeurs. Et vous expliquez ça très bien d'ailleurs, des espoirs qu'on pouvait porter justement dans le numérique ou dans l'ordinateur ou dans Internet, tout simplement, et de voir comment ça s'est passé d'une matière, d'un véhicule d'émancipation personnelle, parfois anti-étatique, à aujourd'hui une manière d'enfermer justement ces identités avec un appel à l'État qu'on redemande d'ailleurs d'une certaine manière, alors qu'il y a le numérique pouvait permettre d'échapper d'une certaine manière à l'État pour s'émanciper. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on a besoin de cet État-là pour pouvoir retrouver une forme de libre-arbitre qu'on aurait perdu par ce numérique qui était pourtant censé nous rendre plus libres.
Oui, tout à fait. Une des choses qui m'a beaucoup intéressée également, c'est d'essayer de comprendre avec quel a priori on avait l'habitude d'aborder la technologie et ses enjeux, et notamment ses enjeux politiques. Et donc, comme vous le dites, effectivement, c'était nécessaire de revenir à cette période flamboyante de l'histoire du numérique dans les années 60-70, où le numérique a servi d'instrument à un nouveau mouvement contre-culturel qui était porté par un personnage encore plus flamboyant, qui s'appelle Stuart Brand.
Mm-hmm. Racontez-nous d'ailleurs qui c'est Stuart Brand, parce qu'il est assez méconnu. On connaît des grandes figures, justement, des pionniers de l'Internet. Je parle du grand public, il est assez... Ouais. Il n'est pas connu à la hauteur, justement, de son influence. C'est ce que vous racontez très bien dans votre ouvrage.
Oui, c'était un des héros de Steve Jobs, entre autres, mais c'est un héros de tous les grands acteurs, entre guillemets, de la Silicon Valley. Alors que finalement, Stuart Brand, on ne sait pas trop ce qu'il a fait, qui il était. C'était un influenceur avant l'heure, finalement. Et c'était un hippie. Il faisait partie de. Il a créé un des plus grands festivals hippie en Californie dans les années 60. Il était très impliqué dans les mouvements contre-culturels qui visaient donc à établir des nouvelles communes loin de la société de consommation américaine. Et il a découvert le numérique et il en a fait sa passion et son cheval de bataille. Et il a estimé que les premiers jeux vidéo, les premiers ordinateurs, d'ailleurs c'est lui qui a inventé le terme micro-ordinateur, ordinateur personnel. À l'époque, on disait micro-ordinateur, je crois.
C'est-à-dire personnel computer, en fait. Simplement le PC, en fait.
En inventant le terme ordinateur personnel, il a contribué à écrire cette histoire du numérique comme émancipation. Et Stuart Brand, il a juste été hyper influent parce que c'est lui le premier qui a tenu ce discours de techno-utopiste qui était en fait révolutionnaire à l'époque. Parce que jusqu'à Stuart Brand, on considérait à ce moment-là que l'appareil technique, c'était l'instrument des technocrates. Enfin, les mouvements sociaux dans les années 60 aux États-Unis étaient très anti-technologistes, parce que la technologie, c'était la bombe H. Mmh. L'administration américaine qui allait faire la guerre au Vietnam. La technologie, c'était le mal. Il fallait retourner à la nature. Et le mouvement techno-utopiste qui est porté par Stuart Brand à ce moment-là, c'est de dire non, en fait, il y a une nouvelle technologie qui émerge, qui n'est plus celle des systèmes, qui est désormais celle de l'individu. Parce que dans le jeu vidéo, c'est l'individu qui manipule le code. Dans l'informatique, il y a cette espèce
Mais c'était une sorte de reprise en main, justement, de l'individu sur l'ordinateur, et l'ordinateur qui vient au service de l'individu et d'un projet de société.
Exactement. Et à ce moment-là, la technologie numérique devient l'instrument de l'individu pour lutter contre le pouvoir de l'État et le pouvoir des dominations systémiques.
D'où le mouvement justement des hackers, des activistes déjà dès l'époque.
C'est lui, c'est aussi Stuart Brand qui fonde la première Hackers Conference en 1981. Donc il est partout en fait, Stuart Brand. Il a une histoire absolument... absolument étonnante.
Et d'ailleurs, Juliette Devaux reviendra justement sur son héritage aujourd'hui, parce qu'il est toujours vivant, hein, Stuart Brand.
Oui.
Alors après, il s'engage sur la question...
Maintenant, il est climatique.
Climatique, voilà. Oui. Bon, on en apprendra un peu plus en fin d'émission. En tout cas, Stuart Brand, il est partout, il est même dans les discours d'Eric Schmidt. Un discours que vous avez pu entendre en 2018, car je le disais, vous avez vécu trois ans et demi aux États-Unis à Columbia dans le cadre de vos études. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé lors de ce discours d'Eric Schmidt, qui symbolise assez bien finalement encore l'héritage qu'il y a sur cette pensée techno-utopiste que l'ordinateur peut tout résoudre, que l'ordinateur nous propose un monde meilleur.
Oui, c'était un discours auquel j'ai assisté, où Eric Schmidt était l'invité d'honneur de la Fondation Sciences Po Alumni à New York. Donc, il était là pour aider à lever des fonds pour Sciences Po. Et il a tenu un discours...
On rappelle ce qu'est Eric Schmidt peut-être.
Oui, c'était l'ancien président de Google.
Voilà, petite entreprise française, petite entreprise internationale.
Voilà. Et il a tenu un discours qui s'inscrivait parfaitement dans la ligne de Stuart Brand dont on vient de parler, assez techno-utopiste, dans lequel il présentait la technologie et l'industrie numérique comme la solution à tous les problèmes de l'humanité, et en particulier l'intelligence artificielle. Et dans son discours, évidemment, il a semé quelques petits messages politiques à l'attention de la France et de l'Europe, en expliquant que pour créer de l'innovation, il faut absolument déréguler. Voilà, il a joué son rôle de grand lobbyiste de façon très fine, très drôle aussi, extrêmement séduisante. Mais c'était assez dérangeant pour moi de l'entendre au premier abord, parce que j'étais doctorante, je travaillais déjà sur les questions de technologie. J'étais dérangée par ce qu'il disait, mais j'ai pas tout de suite réussi à comprendre ce qui me dérangeait dans ce que j'entendais.
Surtout, vous arriviez avec votre culture française aussi. C'était un regard d'une Française qui écoutait justement ces grands discours à l'américaine. Et entre-temps, vous avez compris ce qui vous a dérangé, dans son discours.
Bah, c'était l'arrogance du solutionnisme technologique. Mmh. Il nous répond quand on lui opposait des arguments, parce que certains des étudiants de Sciences Po l'ont fait dans le public. Tu vois, nobody's forcing you to use Google, but you need it. Personne ne vous force à utiliser Google, mais vous en avez besoin. En gros, comme si les dés étaient déjà lancés. Mmh. Et qu'en fait, on avait rien. La seule solution qui nous restait, le seul choix possible, c'était pas vraiment un choix, c'était celui de faire en sorte d'accueillir les entreprises et le progrès technologique le mieux possible pour pas trop être à la traîne en tant qu'Européen.
Et puis il y a cette volonté, vous l'avez dit, en filigrane de la destruction de l'État, c'est-à-dire que finalement l'ordinateur est tellement puissant, l'informatique est tellement puissant, le numérique est tellement puissant qu'il pourrait lui-même prendre les bonnes décisions pour organiser une cité, un pays, voire organiser le monde, pas la peine de passer par un régulateur qui restreint la création, l'innovation et qui nous empêche justement de faire avancer le monde.
Oui, et ça, cette idée de technologie comme solution aux questions de gouvernance, elle est encore une fois extrêmement vieille. Elle remonte aussi à la cybernétique. En fait, avec l'informatique, on a inventé la théorie des systèmes. C'est-à-dire ces représentations du monde où tous les individus sont... Enfin, où on peut se représenter le monde comme un système fermé. Et à partir du moment où on serait capable de comprendre toutes les connexions, toutes les interconnexions, tous les feedback loops entre les différents... point du système, eh ben, c'est ce qu'essaye de faire aujourd'hui la technologie numérique en quantifiant le monde, et c'est ce que font les algorithmes. En fait, avec un bon algorithme qu'on aurait nourri avec suffisamment de données, on serait capable de comprendre exactement le fonctionnement du monde, de la société, et donc de la manipuler le mieux possible. Tout le business model de Google, c'est ça, c'est bien ce qu'on lui reproche aujourd'hui, c'est d'être capable de manipuler le comportement de ses utilisateurs, de les nudger, comme on dit.
Ouais, le fameux nudge, la manipulation, l'influence,
c'est ça.
La manière dont le design numérique peut être ainsi construit, qui nous oriente sur telle ou telle décision, parce qu'il a anticipé le fait qu'on aurait tel comportement, et cette anticipation se fait bien sûr par l'analyse de quantités de données astronomiques.
Exactement. Et ça, c'est une nouvelle capacité qui émane de la technologie, que beaucoup ont analysé comme ce qu'on appelle un nouveau techno-pouvoir. Techno-pouvoir, en fait, au sens presque où l'entendait Michel Foucault, c'est-à-dire le pouvoir, pas le pouvoir vertical de contrainte, mais le pouvoir d'influencer, justement, comme vous le disiez.
Et, mais ça, ça serait se faire fi que l'individu, que l'humain porte en lui toute une charge d'imprévu, d'imprévisible, de surprise, de poésie, pour y revenir.
Oui, ben après, la théorie, c'est que plus on est capable de mapper votre environnement, je parle franglais,
de cartographier
exactement votre environnement et toutes vos actions passées, plus vous serez anticipé, c'est-à-dire plus on réduit la probabilité de se tromper sur l'anticipation de votre comportement futur. Ça ne veut pas dire qu'il peut pas y avoir un sursaut d'inattendu de la part de l'individu. Mais ce qu'essaye de faire Google et tous les autres business models qui reposent sur l'anticipation des comportements, c'est de réduire la probabilité de se tromper à votre sujet.
Et parfois, il y a une probabilité qu'on n'a pas vu venir. Il y a un bug, c'est ce qu'on appelle une lanceuse d'alerte. C'est un employé qui sort du système et qui va livrer une vision, une information qui va déranger ce grand rouage mécanique. C'est le cas de Frances Haugen qui explique les dangers de Facebook qui, évidemment, tout comme Google, participe à cette économie de l'attention et cette économie de la donnée. On l'écoute.
Le Congrès va agir. Ce sont les mots des sénateurs américains. Ils promettent de mieux réguler Facebook à l'avenir, exhortés par le témoignage de la lanceuse d'alerte, Frances Haugen.
Je crois que les produits de Facebook nuisent aux enfants, attisent les divisions et affaiblissent notre démocratie. Les dirigeants de l'entreprise savent comment rendre Facebook et Instagram plus sûrs, mais ils ne feront pas les changements nécessaires, parce qu'ils ont fait passer leurs profits astronomiques avant les gens.
Et là, on voit justement que Frances Haugen, dans le cadre de ce discours au Congrès, demande tout simplement une régulation. Et c'est en cela où, justement, c'est intéressant de revenir sur la perspective historique qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on pointe du doigt, effectivement, les dérives d'une industrie numérique, mais la solution est très différente de celle d'Edward Snowden qui, 10 ans plus tôt, lui aussi, avait prouvé cette surveillance de masse et qui n'appelait pas du tout, évidemment, à ce que l'État soit encore plus présent dans notre société, puisque c'est bien ce qui pointait du doigt.
Oui, tout à fait. C'est une sorte de renversement assez spectaculaire en 10 ans de ces deux grands lanceurs d'alerte. Un, mais qui diagnostiquent exactement le même problème. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a la datification du monde pose un problème, au respect des libertés individuelles. Sauf que le premier considère que c'est l'État qu'il faut surveiller, enfin, c'est-à-dire qu'il faut réduire les prérogatives de l'État, plus justement.
Et on ne peut plus avoir confiance en l'État, en tout cas.
Oui, parce que ces services de renseignement auraient accès à toutes ces données, on ne peut plus avoir confiance en l'État. Donc Snowden, c'est en quelque sorte l'héritier immédiat de cette contre-culture numérique. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis dans le livre, c'est que rien n'a autant justifié le discours de Stuart Brand, c'est-à-dire cette opposition de fait entre une société numérique libre et un État qui devient dangereux à partir du moment où il a accès à la technologie, que le 11 septembre et la lutte antiterroriste, puisque à partir du moment où l'État a dû faire du numérique un nouvel outil de son arsenal stratégique, l'État est apparu comme une menace pour la société numérisée. C'est ce que nous dit Snowden.
Exactement, avec cet objet, cette promesse qui était votre sécurité contre votre liberté.
Exactement. Et 10 ans plus tard, et en fait, à force de se concentrer et de crier au loup face à la surveillance de masse, au pouvoir des services de renseignement, au risque de dérive totalitaire, d'ailleurs, c'était pas des arguments faux.
C'était fantasque.
C'était fantasque. Ouais. C'était tout à fait juste. Et d'ailleurs, partout, des États-Unis jusqu'en France, il y a eu des lois renseignement pour encadrer les pratiques des services de renseignement à la suite des révélations d'Edward Snowden. Donc, c'était pas en vain ce qu'il a fait. Il avait raison. On peut en débattre, mais en tout cas, son alerte était tout à fait justifiable.
En tout cas, elle a été reconnue comme d'utilité publique.
Exactement. Mais à force d'attirer l'attention là-dessus, on n'a pas vu venir cette autre forme de surveillance que aujourd'hui on appelle désormais le capitalisme de surveillance, qui est en fait tout simplement la surveillance privée des entreprises, des GAFA, des GAFA, des Big Tech.
Et c'est là où c'est intéressant de voir effectivement cette lanceuse d'alerte qui demande maintenant à ce que l'État soit plus présent.
Tout à fait. Et justement, pour moi, ce renversement de situation, c'est aussi le symptôme de la limite de cette conception du numérique en tant qu'instrument du pouvoir. Parce que c'est assez drôle de voir ce renversement. Mmh. Et que tirer comme conclusion du fait qu'en 10 ans, on passe on comprend d'abord l'enjeu du numérique comme le risque d'un État totalitaire. Et 10 ans plus tard, comme on va appeler ce même État qu'on
comme un sauveur, justement, c'est-à-dire qu'on a
comme le sauveur face au GAFA.
Pour prendre une image facile, c'est qu'il y a Big Brother qui a changé de camp. D'un côté, le Big Brother était devenu l'État. Aujourd'hui, le Big Brother, c'est justement le monde numérique et les GAFAM qui étaient censés justement nous permettre une émancipation. Et c'est ça que vous expliquez dans votre livre, c'est que ça ne sert à rien ou c'est stérile d'expliquer ce Big Brother politique ou ce Big Brother économique et qu'il faut essayer de comprendre justement. Bah, qu'est-ce qui entoure Big Brother? Qu'est-ce qui structure Big Brother? C'est pour ça que vous l'appelez, enfin, si je peux me permettre ainsi de parler de Big Brother comme étant une évocation du numérique dans sa donnée de surveillance, mais de le penser de manière globalisante, en fait.
Tout à fait.
Et donc, c'est ce qu'on va essayer de mieux comprendre. Mais sur la régulation, j'aimerais bien vous entendre, parce que vous avez une approche qui est assez critique et qui va à contre-courant de ce qu'on peut aussi penser, puisque Frances Haugen, pour clore ce chapitre, elle appelle à une plus grande régulation. On serait très bien que la régulation est au centre de beaucoup de débats aujourd'hui concernant les dérives du numérique. Vous n'y croyez pas du tout. Vous pensez que c'est une solution, je vous cite, cosmétique.
Alors, c'est pas que j'y crois pas, mais c'est que je pense... Enfin, ça dépend du sujet, ça dépend de la question qu'on se pose. Si on se pose la question du numérique comme enjeu stratégique pour les États. Enfin, évidemment qu'il faut réguler. Et donc la régulation des plateformes, enfin il y a eu au sujet des plateformes en Europe, il y a eu le règlement sur les marchés numériques et sur les services numériques, le DMA.
DSA, qui va effectivement rentrer en application au début de l'année.
Tout à fait, qui vient d'être ratifié. C'est une réponse quasiment directe à ce que dénonce Frances Haugen, en partie, et aux fake news et à tous ces problèmes. Donc, dans ce sens-là, la régulation est nécessaire. Mais ce que je critique, c'est de prendre la régulation et de faire de la régulation la réponse aux effets de la transformation numérique sur le politique. Là, c'est un autre sujet. Mais évidemment que le numérique est devenu, surtout depuis le 11 septembre, comme je le disais, un nouvel outil stratégique. C'est mais stratégique à tout point de vue, pour la souveraineté économique des États, stratégique d'un point de vue de défense et de sécurité dans la lutte antiterroriste. On a bien vu l'enjeu que représentaient les données pour être capable de protéger sa propre population. Aujourd'hui, c'est même un enjeu monétaire, enfin, de souveraineté monétaire avec les nouvelles crypto-monnaies, les stablecoins, etc. Donc, de ce point de vue-là, il est évident que l'Union européenne et les États ont un rôle à jouer dans la régulation du numérique et ont le devoir de structurer une politique économique. Donc, si on parle du numérique comme partie prenante d'une politique économique, dans ce cas, le sujet de la régulation, il est tout à fait nécessaire. Mais ça, c'est un sujet tactique, la politique économique. C'est pas un sujet philosophique.
C'est-à-dire que, bon, effectivement, on a l'impression dans les débats qu'on a que la régulation serait un peu l'alpha l'oméga de toutes les solutions et que c'est ce qui va nous permettre de résoudre en fait les grands problèmes. Vous nous dites que ça va résoudre effectivement une partie d'un aspect économique en l'occurrence du problème, mais que ça ne sera en aucun cas forcément la seule issue parce qu'elle a ses limites.
En fait, ce que je dis, c'est que si tout à fait, mais si on veut comprendre, si on prend au sérieux l'impact et l'influence du numérique. Si on considère vraiment que c'est un nouvel élément qui vient structurer le réel, qui vient tout transformer comme on l'entend partout. Dans ce cas, il est légitime de poser la question de ce que ça change d'un point de vue politique. Mais politique avec un grand P. Politique en tant que façon de vivre et de vivre ensemble.
De faire sens, de faire société, de faire cohésion, de faire corps, de faire cité.
Tout à fait. Et si on pose cette question-là, si on prend cette question-là au sérieux, c'est-à-dire qu'est-ce que fait le numérique pour l'ordre politique du monde, on ne peut pas se limiter à la question de la régulation. Et surtout, on ne peut pas, parce que ça c'est un contresens argumentatif et conceptuel, de faire d'une part le constat que le numérique change tout et qui menace la démocratie, et de l'autre de dire la solution c'est de réguler. Parce que si on peut réguler, bon, c'est que ce n'est pas une vraie menace. C'est que c'est juste une question d'ajustement. Après, il est tout à fait pertinent de faire ces constats de destitution du politique face à l'innovation et aux méthodes disruptives des grandes entreprises du numérique. Mais ça, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est propre au numérique. Enfin, le numérique a peut-être accéléré le processus parce que c'est une technologie qu'on appelle disruptive. Et c'est vrai, enfin, sa liquidité fait que par nature, ça va encore plus vite. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de diagnostiquer et de comprendre ce qui est propre au numérique lui-même. Pas de réactualiser la vieille critique de détention entre capitalisme et démocratie. Mmh. Parce que là, je pense qu'encore une fois, c'est nécessaire de comprendre l'évolution du capitalisme et les nouvelles tensions qu'il crée avec le monde politique et les institutions démocratiques. Mais ce n'est pas le sujet. Vous voyez ?
Oui, je vois. C'est en ça on revient à la dimension poétique que vous défendez, qui est globalisante. Mais on voit d'ailleurs que c'est intéressant de le préciser, que c'est pas si simple. Parce que justement, comme c'est total, il faut toujours y revenir, effectivement, pour comprendre quelle est la spécificité de votre approche. Mais tout de même, l'un dans vos propos, ce qui me faisait penser à ce côté disruptif et au côté du rapport de force, quand même, entre la politique et les entreprises de la tech, il y a quand même un cas que vous évoquez dans votre ouvrage et qui est quand même particulièrement significatif, c'est le cas d'Uber, qui va justement imposer une loi, imposer des codes, s'affranchir, enfin partir d'une action comme un voyou et finir par rentrer dans la norme, donc quelque part à prendre le pas sur le politique, à lui donner le tempo. On écoute justement un autre lanceur d'alerte.
J'ai cru dur comme fer qu'on allait pouvoir donner des opportunités économiques à des centaines de milliers, à des millions de personnes qui jusque-là étaient invisibles. Oui, il y avait beaucoup de violence. Lorsque on a vu que les chauffeurs Uber étaient en danger physique, on aurait dû calmer le jeu beaucoup plus vite. Je pense qu'on aurait dû trouver un autre moyen de porter notre message, on aurait dû être plus patient. Mais nous, on était speed, on voulait tout, tout de suite. On voulait une valorisation boursière sans précédent.
Vous avez forcé la porte un peu pour rentrer, c'est ça ?
Je pense qu'on a un peu défoncé la porte.
On a défoncé la porte, nous dit justement une des personnes qui est à l'origine de la révélation des Uber Files d'il y a quelques mois, qui est une bonne illustration de ce que Shoshana Zuboff appelle la doctrine de l'inévitabilisme, que vous reprenez d'ailleurs dans votre ouvrage.
Oui, tout à fait, qu'elle appelle aussi un capitalisme voyou. Mmh. Et c'est une matérialisation du slogan de Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, Meta, « Move fast and break things ».
Il faut casser des choses, c'est
ouais,
ça.
Ouais, il faut aller vite et tout casser. Et effectivement, c'est problématique. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose contre lequel les démocraties libérales sont mal armées. Bah, il y a eu des négociations. Aujourd'hui, ces pratiques sont plus ou moins régulées. D'ailleurs, il y a des endroits où finalement, Uber va plus très bien. Si on prend du recul par rapport à tout ça, on peut se demander s'il y a une mutation du capitalisme. Et ce qui est sûr, c'est que il y a une convergence assez nette entre les intérêts capitalistes et la technologie et l'industrie numérique. Mmh. Alors c'est pas pour rien que les capitalisations boursières les plus impressionnantes aujourd'hui sont dans la tech.
Tout comme les lobbies qui sont maintenant les lobbies les plus importants sont dans la tech aussi à la Commission européenne. Quand c'était d'autres industries il y a encore quelques années, la pétrochimie et autres, aujourd'hui c'est bien l'industrie de la tech qui guide justement, qui est la tête de lance de ce capitalisme.
Tout à fait. Mais encore une fois, c'est pas la première fois dans l'histoire du capitalisme que des grands industriels ou des grandes industries imposent leurs normes, imposent leurs lois, imposent leurs intérêts aux structures sociales qui les accueillent. Et je ne sais pas si ce qui se passe aujourd'hui, d'un point de vue des luttes sociales possibles, est très différent de la répression des grèves en 47, qui ont conduit... Enfin, d'ailleurs, je pense qu'en fait, c'était bien pire à l'époque. Quand il y a eu des grèves en 47 en France, le ministre communiste de l'époque a été renvoyé. Enfin, il a dû démissionner. Et d'ailleurs, en plus, parlant d'ingérence étrangère, je crois que c'était... Enfin, je crois que c'est même historiquement avéré que c'était sous l'influence des États-Unis qui finançaient l'Europe avec le plan Marshall et...
Et donc là, effectivement, on retrouve des ingrédients aujourd'hui de cette même histoire, à la fois une influence étrangère, on peut le voir, dans le cas des menaces de la démocratie via effectivement des fake news. Et puis, ce que vous nous dites, c'est-à-dire qu'on crie parfois peut-être un peu trop fort à la révolution numérique et vous expliquez en fait simplement que ça peut être parfois un prolongement, qu'il faut le voir avec un peu plus de hauteur et de manière plus systémique.
Tout à fait. Il faut le voir de manière plus systémique.
Et on va même le voir et pourquoi pas l'entendre même en musique pour marquer une petite pause, Charlène Biondi, dans le cadre de ce meilleur des mondes, avec toujours cette idée de capitalisme, de surveillance, la surveillance à l'intérieur même de notre esprit, de notre karma, cette police de l'esprit, cette karma police, c'est bien le titre de Radiohead avec son magnifique album OK Computer, ici ce soir dans le meilleur des mondes, et on se retrouve bien sûr tout de suite après pour les nouvelles lumières des mondes. Et non, Karmapolis ne se perd pas dans le meilleur des mondes. Nous sommes toujours ensemble pour questionner le numérique. Mais tout de suite, c'est l'heure des nouvelles du meilleur des mondes.
Better, happier, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, 3 days a week.
Les nouvelles du meilleur des mondes, François Saltiel.
Et je vous le jure, ces premières lignes du journal n'ont pas été écrites par le robot conversationnel ChatGPT, mais elles auraient pu. Précaution nécessaire, tant les utilisateurs avertis s'emballent depuis quelques jours autour de ce programme d'intelligence artificielle qui vient d'être ouvert au grand public. Il a été développé par OpenAI, entreprise à l'origine de DALL-E. Rappelez-vous, le logiciel capable de générer des propositions visuelles à partir d'un texte. Nous avions consacré une émission entière à ce sujet en explorant la portée artistique du generative art. En un mot, une IA peut-elle être à l'origine d'une œuvre d'art? Si la question reste ouverte sur la question artistique, nous sommes assez certains que ChatGPT est capable, lui, d'écrire rapidement un texte semblable à l'écriture humaine. Plus d'un million d'utilisateurs l'ont challengé pour lui faire écrire des comptes rendus de matchs de foot, des discours de mariage, des poèmes, on revient à la poésie, hein, à la manière de, ou encore des dissertations, et les résultats, malgré quelques imperfections, sont plutôt probants. Comme tout bon programme de deep learning, apprentissage profond, il s'améliore chaque jour et se repose sur une quantité colossale de romans, articles de presse ou conversations en ligne pour simuler l'écriture humaine. Les gens journalistes aussi entre fascination et inquiétude pour la survie de leur métier. Les internautes s'amusent à écrire des textes lunaires et les collégiens espèrent trouver ici une nouvelle astuce pour écrire sans effort. Ah tiens, ce que OpenAI ne dit pas forcément, c'est que l'entreprise a été fondée par Elon Musk, encore lui, avant qu'il ne se retire et laisse place à Microsoft, qui a investi des centaines de millions de dollars pour obtenir l'exclusivité de la technologie. Et oui, derrière l'outil, un GAFAM qui se renseigne encore un peu plus sur l'écriture de nos imaginaires pour mieux nous lire comme un livre ouvert.
I am Assistant, a large language model trained by OpenAI, so feel free to ask.
Et on poursuit avec la plateforme Twitch qui vient de se faire bannir de l'Assemblée nationale. Explication, depuis quelque temps, des députés insoumis comme Hugo Bernalicis, baptisé Dépu Twitch, faisaient vivre de l'intérieur les séances du Palais Bourbon. Il commentait en direct et face à sa communauté de spectateurs, de viewers, les décisions et les débats. Un live qui n'a pas été du goût du bureau de l'Assemblée nationale qui a interdit l'emploi de cet outil de communication comme elle le fait depuis toujours pour l'usage du smartphone, du téléphone. Pour suivre le Parlement sur Twitch, il fera donc se contenter des analyses brillantes du streamer Jean-Marc qui le commande depuis chez lui en reprenant le flux de la chaîne parlementaire. Mais ces infiltrés depuis Twitch n'ont pas dit leur dernier mot et comptent toujours utiliser la plateforme depuis leur bureau. Et oui, insoumis, on ne se refait pas.
Vous êtes une bande de TikTokers qui cherchent le buzz.
Et voici les mots de la députée Renaissance Fanta Berrette. Et je terminerai ce journal justement par une renaissance, enfin plutôt une résurrection, celle du Minitel. Trois nostalgiques des années 80 ont lancé Minimit, un boîtier permettant de connecter son Minitel, enfin encore faut-il en trouver un, hein, avec sa box internet. Une manière de revitaliser en pixels l'objet culte. L'entreprise va même encore plus loin en redéployant des services bien connus des usagers comme la météo, l'horoscope ou la célèbre ligne rose 3615 ULA. Mais ici, c'est une intelligence artificielle qui répond aux désirs des utilisateurs. Et pourquoi ne pas embaucher ChatGPT ? Je suis sûr qu'il serait d'accord. La boucle est bouclée et vous êtes bien dans le meilleur des mondes. Et nous sommes toujours en compagnie de Charlène Biondi qui a donc sorti cet essai, son premier essai, Décoder une contre-histoire du numérique. Et depuis le début de cette émission, on essaie de comprendre la pensée poétique de son approche. Un livre passionnant qui a été apprécié par toute la rédaction du Meilleur des Mondes. Une rédaction composée de trois personnes et peut-être de ChatGPT qu'on peut considérer donc comme une quatrième personne qui travaille maintenant avec vous. Avec nous, Charlène Biondi, en quoi, puisqu'on a passé Karmapolis de Radiohead, la distinction entre vie privée et vie publique devient caduque, c'est ce que vous dites aussi dans votre ouvrage.
Elle devient caduque dans la mesure où, pour fonctionner, pour produire les connaissances aujourd'hui, la technologie numérique ne peut plus respecter cette frontière. C'est-à-dire qu'elle a besoin de... Pour produire les recommandations qu'on aime tant recevoir... Les bons livres suggérés par Amazon, enfin tout ce que vous connaissez très bien des petits push de nos vies connectées, le numérique collecte des données qui relèvent de l'intime. Et de toute façon, c'est devenu une technologie de l'intime, principalement aujourd'hui dans nos vies quotidiennes. L'usage premier qu'on fait du numérique, c'est un usage intime. C'est pour communiquer avec nos proches, c'est pour connecter un réveil le matin à... une chanson qui nous plaît bien, c'est pour faire des listes de nos morceaux préférés sur Spotify.
C'est pour jouer avec nos émotions, en tout cas, effectivement, des musiques qui stimulent nos émotions, des relations amicales, sentimentales.
Oui, c'est le GPS de nos déplacements. Quoi de plus privé que notre routine. Et donc, c'est devenu superflu, pas dans la mesure... Enfin, cette frontière est effacée. Pas parce que nous voulons l'effacer. Ça ne veut pas dire que nous, on renonce à l'intime. Ça, c'est complètement faux de croire que parce qu'on est prompt à poster des photos de nos vacances sur Facebook, on n'a plus de conception de la vie privée. Ça, c'est un argument qui ne tient pas la route. C'est juste qu'on met la frontière de ce qu'on considère comme privé, peut-être ailleurs.
Un peu plus loin ou ailleurs.
Ailleurs que là où la mettaient nos aînés.
C'est ce que Serge Crisseron parle d'extimité, c'est-à-dire ce qu'on donne à voir de notre intimité, mais celle-ci est encore contrôlée, ce qui laisse place effectivement à une vie privée, à un jardin secret qui serait peut-être encore secret.
Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a plein d'études très intéressantes sociologiques sur les adolescents et sur leurs pratiques des réseaux sociaux qui montrent qu'ils ont une maîtrise très particulière, mais très affirmée de leur... stratégie d'exposition. Les adolescents, ils ont beau être sur TikTok toute la journée, en fait, ils ont tout à fait conscience de ce qui relève du... Enfin, de leurs propres limites du privé et puis aussi de ce qu'implique la publicité de leur contenu.
Oui, c'est peut-être tout simplement la surface d'exposition qui a changé.
Elle tout s'est à agrandie, fait.
Le périmètre, mais ce moment secret reste encore dans les consciences et encore une envie, vous pensez encore une volonté justement de la conserver, cette vie privée, ce jardin secret.
En fait, je vois pas pourquoi ça aurait disparu. Mmh. Et je pense que c'est une erreur de croire que parce que la technologie fonctionne comme ça et qu'effectivement nos données privées sont captées et qu'effectivement avec le réseau social, c'est un réseau d'exposition, donc on a tendance à s'exhiber, on peut pas conclure que du coup l'intérêt de l'humain pour le privé a disparu. Enfin, je pense qu'on n'a qu'à se regarder dans le miroir et se demander si on est prêt à être transparent. Évidemment que non. Et d'ailleurs, il n'y a pas de conscience possible, il n'y a pas de sujet possible pour se construire. On a besoin de cette part de secret, on a besoin d'un jardin secret. Le jour où le jardin secret aura disparu, on sera dans la vraie dystopie totale. D'ailleurs, même dans 1984, il n'a pas disparu. C'est pour ça qu'il meurt, d'ailleurs. C'est la tragédie. Mais c'est qu'il a le système aussi totalitaire, aussi parfait qu'il ait été pensé, n'a pas réussi à venir à bout de cette petite boîte noire de l'individu. C'est ça qui fait qu'on existe. Donc, je pense encore une fois que c'est une extrapolation un petit peu sensationnaliste que de considérer que l'homo numericus a perdu toute conception du privé.
Effectivement, c'est vrai que c'est une conception qu'on peut avoir et qu'on peut en déduire par les différentes initiatives qui sont proposées par cette industrie du numérique. On va essayer d'analyser nos rêves, notre sommeil. On voit que dans sa volonté, elle repousse toujours d'un peu plus loin, justement, notre intimité. Pour revenir justement sur ce chat GPT et Dali, c'est ça aussi, c'est d'analyser même notre imaginaire, ce qu'on veut percevoir comme image du futur. C'est en ça où, effectivement, vous avez raison de signaler que ce n'est pas aussi manichéen qu'on veut parfois le penser, et que les individus sont quand même des individus intelligents par rapport à cette connexion et peuvent pouvoir se préserver. Et c'est peut-être d'ailleurs dans cette dimension du jardin secret qu'il pourrait y avoir un sursaut et un salut.
Oui, et d'ailleurs, mais pas seulement les individus. D'ailleurs, l'industrie a conscience de ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'industrie numérique elle-même fait émerger plein d'applications et de nouvelles start-up qui sont là pour aider l'individu à déconnecter. Donc à prendre conscience de son temps de connexion, de se libérer de l'écran, etc. Donc ça, c'est des progrès qui viennent même de l'industrie. Apple fait ça, suggère des... Apple,
quand même le leader. Oui, non, mais là, on est dans des choses assez parfois même absurdes. C'est-à-dire qu'on va avoir effectivement des applications qui vont nous aider à déconnecter.
Oui,
tout en analysant notre donnée pour savoir pourquoi on l'est trop. Donc, on est... De toute façon, c'est toujours c'est presque ce technosolutionniste qui a créé un problème et qui va créer la solution au problème qu'il a lui-même engendré.
Oui, mais après tout, pourquoi pas ?
Pourquoi pas, si on sait l'utiliser. Là où vous êtes aussi avec un discours un peu à contre-courant, c'est que vous êtes assez sceptique sur le fact-checking, que vous semblez aussi assez stérile comme remède. Pourtant, le fact-checking, on le lit, on le voit partout. Tiens, même France Télévisions, on a fait un argument de campagne.
Face aux milliers d'informations qui nous submergent,
partout, dans les médias, sur Internet,
nous sommes parfois désarmés.
Alors comment distinguer le vrai du faux ?
Comment savoir si nous sommes vraiment informés ?
Ou simplement manipulés ?
Pour vous aider, France Télévisions s'engage à vos côtés.
Parce que vous avez droit à une information fiable, vérifiée, expliquée.
Une information de confiance. Info ?
Ou un tox ?
On vous aide à faire le tri.
Peut-être que là aussi, on revient toujours au même problème que vous pointez du doigt. Peut-être que le fact-checking va soigner un symptôme, mais pas forcément le mal en soi. Parce que pour vous, vous expliquez que cette ère de la contre-vérité ou du complotisme est en fait plus une crise de la vérité, voire même une crise de l'identité.
Alors, je ne suis pas sceptique du fact-checking. Je pense que c'est une nécessité du travail journalistique. En revanche, je me fonde sur pas mal d'enquêtes qui ont montré que, par exemple, les personnes qui adhèrent à des fausses informations ou à des théories du complot, quand on leur soumet la vérité factuelle, donc le fact-checking, elles se radicalisent encore plus. C'est-à-dire que le fact-checking n'est pas la solution à la radicalisation des opinions et aux croyances complotistes. Ça, c'est un fait.
Ça ne marche pas.
Alors, ça ne marche pas pour plein de raisons. Il y a plein d'enquêtes, enfin, il y a plein de théories là-dessus qui expliquent les origines des croyances des uns et des autres. Moi, ce qui m'intéresse, et la raison pour laquelle j'essaie de prendre un petit peu de distance par rapport à ces discours sur la crise de la vérité, c'est dans quelle mesure la transformation numérique a un impact sur ce qu'on, n'accepte comme critère qui fonde le juste et le vrai. C'est-à-dire dans quelle mesure le numérique vient bouleverser les références, enfin les points de référence, les grandes idées qui font tenir ce que j'appelle le monde commun.
Voire même l'imaginaire collectif.
Exactement, monde commun ou imaginaire collectif. Ça, c'est synonyme.
Pour reprendre un petit peu de Jung. Mais pour bien comprendre, c'est que justement, vous parlez donc de cette quête presque de sens, c'est-à-dire que c'est ce monde commun qui vacille.
Tout à fait. Et je parle de crise de sens et j'essaye de faire une généalogie, c'est un peu un gros mot, mais de faire le lien entre les grandes révolutions scientifiques et l'émergence d'une crise de sens qui déboule sur une crise politique. Et c'est dans mon livre, c'est une partie qui moi m'a passionnée dans mes recherches doctorales, de revenir sur l'histoire des sciences, sur l'histoire politique des sciences, entre guillemets. Et donc je le résume un petit peu, mais pour aller très très vite, dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu un grand bouleversement scientifique, je prends l'exemple de la physique de Newton, cette grande découverte scientifique, en premier lieu, a donné lieu à une révolution d'ordre industriel, puisque la science est matérialisée par de nouvelles technologies, précisément, qui elles-mêmes transforment toutes les façons de faire, transforment l'industrie, font progresser le social. Et à travers l'adoption de ce nouveau paradigme scientifique dans les outils de tous les jours, eh bien, la société finit par changer de paradigme, changer de perspective, changer de point de vue, comme dirait Norbert Wiener, et par ne plus se reconnaître dans les institutions qui l'organisent. Mmh. Et c'est ce qui débouche, et d'une certaine façon, c'est une idée assez banale, c'est de dire que la Révolution française est fille des Lumières. En fait, c'est cet héritage qui fait qu'un jour, à force de croire, enfin d'être imbibé, même sans rien comprendre à la physique newtonienne, mais de cette idée que les lois qui dirigent l'univers sont rationnelles et scientifiques et qu'on peut...
C'est une déstabilisation totale, en fait. Ces avancées scientifiques ont déstabilisé totalement la manière dont on percevait le monde, qui a donné lieu ensuite à des déstabilisations politiques majeures. Et vous faites la même analogie avec le Troisième Reich, d'ailleurs, dans votre ouvrage, « Écoute d'aujourd'hui ».
Tout à fait. Quid d'aujourd'hui ? Et aujourd'hui, quand on regarde l'évolution, il y a eu cette découverte scientifique qui a été la science informatique, une énorme révolution techno-industrielle du numérique. Et aujourd'hui, on se retrouve précisément dans ce moment de basculement, de crise de sens, où la société a adopté ce nouveau point de vue de la science informatique, mais les institutions qui la gouvernent restent celles du passé.
Et c'est en cela effectivement que vous appelez à aller changer ces institutions pour essayer de voir un petit peu de lumière. Mais cette lumière, c'est celle de Juliette Devaux qui est rentrée dans le studio. Bonsoir Juliette.
Bonsoir.
Qui va, comme je vous l'avais promis et annoncé, revenir sur l'influence majeure du pionnier de la tech dont on a assez et beaucoup parlé depuis le début de cette émission, Stewart Brand, que vous évoquez d'ailleurs beaucoup dans votre contre-histoire du numérique. Juliette, vous avez voulu savoir ce qui restait justement de son héritage et quelle était la vision aujourd'hui et la pensée des courants activistes contemporains.
Oui, alors petite précision pour commencer, dans le mot activiste, il faut entendre le mot hack de hacker, héritier de la culture hacker des années 90 que vous décrivez dans votre livre. Les activistes sont des individus, qui mettent leurs compétences en informatique au profit de changements sociaux et politiques, piratant des sites internet ou divulguant des informations confidentielles, comme le fait par exemple le collectif Anonymous sur de nombreux sujets. Alors s'il n'existe pas de définition officielle de ce militantisme et que ce terme est revendiqué par des entités très diverses, l'on peut tout de même avoir une idée des principes défendus par la majorité de ces hackers en s'intéressant à une organisation très populaire au sein de la communauté, une organisation que vous évoquez dans votre ouvrage et qui répond au nom pour le moins cryptique de CCC.
Triple C, 3C, qu'est-ce que ça signifie Juliette ?
Eh bien, il s'agit du Chaos Computer Club, l'organisation de hackers la plus influente d'Europe qui organise un congrès chaque année depuis 1984 en Allemagne, rassemblant des milliers de hackers utopistes et activistes autour de conférences et d'ateliers. Le prochain aura d'ailleurs lieu dans quelques jours, si vous voulez y assister, François. Et lorsque l'on s'intéresse aux principes fondateurs énoncés par le CCC, on découvre que l'influence de Stewart Brandt est encore bien réelle. À la deuxième place de ces principes, on peut lire « Toute information devrait être libre », référence directe à la phrase prononcée par Stewart « Information wants to be free », pardon, lors d'une conférence de hackers en 1984. La culture du libre est ainsi encore majoritairement défendue par les hackers, activistes de la nouvelle génération, qui considèrent pour beaucoup l'internet propriétaire comme un dévoiement du potentiel de l'informatique. Autre indice de cet attachement toujours vif à la libre circulation des connaissances, la notoriété posthume dans les cercles de hackers militants du jeune activiste américain Aaron Swartz, suicidé en 2013 à seulement 26 ans, après avoir été harcelé par le FBI pour avoir diffusé des articles scientifiques gratuitement sur Internet. Fervent défenseur de la libre circulation des savoirs et informaticien de génie, Aaron Swartz est à l'origine de la création de la licence Creative Commons qui permet aux créateurs de contenu de diffuser librement leur production. Écoutez-le parler des limites du copyright dans nos sociétés numérisées.
Ce qui est inquiétant avec cette politique du copyright, c'est qu'ils veulent interdire cette recombinaison. Ils veulent faire intervenir la loi pour dire c'est illégal. Vous devez avoir une licence pour chaque élément utilisé. Si vous faites ça, vous étouffez la créativité. C'est presque impossible d'obtenir une licence pour chaque élément. Si pour chacun des mots que vous utilisez, vous deviez appeler la personne qui a inventé ce mot ou sa descendance et que vous demandiez « Est-ce que je peux avoir une licence pour ce mot ?» vous n'arriveriez à rien.
Des propos qui résonnent avec une actualité toute récente. Il y a quelques semaines, ZGen, une célèbre bibliothèque gratuite, donc illégale de livres numériques, utilisée par de nombreux étudiants, journalistes et chercheurs, a été démantelée par les autorités américaines et ses créateurs arrêtés, suscitant un émoi important sur les réseaux sociaux. Une question se pose alors, le régime de propriété intellectuelle est-il encore conforme à nos usages numérisés ou s'agit-il d'un archaïsme parmi d'autres voué à disparaître?
Merci beaucoup Juliette Devaux et votre chronique n'est pas vouée à disparaître puisqu'on pourra la réécouter évidemment en podcast. Est-ce que vous avez une réponse à cette dernière question de Juliette?
Est-ce que la propriété intellectuelle est vouée à disparaître? En tant qu'auteur, j'espère pas. mais il est évident que la numérisation des contenus pose un vrai sujet.
Et ça pose un vrai sujet, et de la propriété intellectuelle, on peut facilement aussi se projeter dans le Web3 et la manière dont on va essayer de créer de la valeur dans ce qui appartient à l'individu ou dans ce que l'individu peut créer. On peut parler ici des NFT. Pour revenir justement et pour finir peut-être en quelques minutes sur le Web3 qui est censé être l'avenir de l'Internet, si on poursuit cette grande histoire du numérique que vous avez initiée et que vous racontez au début de votre ouvrage, pour l'instant les signaux de cette utopie du Web3 ne sont pas forcément tous au vert, puisqu'on voit qu'on est quand même dans une forme de marchandisation de la propriété, de l'individu, de sa valeur, plus qu'une décentralisation, une désintermédiation telle que c'était promis et prévu.
Oui, alors il est encore un peu tôt pour juger, parce que c'est très difficile de se figurer exactement à quoi le Web3 va ressembler. En revanche, si on se fie aux premiers espaces numériques qui ont été construits sur la blockchain, qui sont des métavers blockchain, et qu'on observe comment ces technologies ont été utilisées, enfin, la blockchain et la capacité qu'elle offre de tout tokeniser. Effectivement, la première promesse que semble faire le Web3, c'est de créer un espace où tout peut devenir marchand, c'est-à-dire une hyper-marchandisation du web. Alors certes, cette hyper-marchandisation et décentralisée, et effectivement la nature de la technologie blockchain fait que n'importe qui peut créer son token, créer son objet, mais je suis pas sûre d'où placer le curseur d'un point de vue d'émancipation de l'individu.
Mais c'est ce qu'il
dans un monde hyper marchandisé, hyper marchand et hyper tokenisé. Oui.
Exactement. Bon, vous aurez l'occasion justement d'y réfléchir et peut-être de confier vos analyses dans un prochain ouvrage. En tout cas, s'il y a bien un objet qui a de la valeur, c'est votre livre, Charlène Biondi, Décoder une contre-histoire du numérique, qui a été fortement apprécié par le meilleur des mondes. Donc bravo et merci d'avoir été avec nous pour cet entretien d'une heure qui n'a pas suffi à tout comprendre votre pensée. C'est pour ça que j'invite nos auditeurs et auditrices à acheter un livre et à tout simplement connaître au gré des pages un peu mieux votre regard qui, je le rappelle, est toujours aussi audacieux et inédit. Merci à la réalisation de cette émission, François Richer, accompagné à la technique par Noé Chaban, à la préparation et à la chronique Juliette Deveau. Notre stagiaire Louise Robert qui continuera à nous accompagner l'année prochaine, on est très contents. Le meilleur des mondes, c'est déjà terminé.